Baudelaire sur France Inter.
Il ne faut pas trop mettre les choses en scène, les laisser comme elles arrivent dans la vie, comme si elles étaient en train d'arriver sur les gens. Les rendre perspectibles, pas plus, pas moins. C'est une question de mesure, ça doit être précis. Chaque mot et chaque signe de ponctuation a son rôle et son travail à faire. Les êtres qui ont des corps, des cœurs qui battent, tout ça pris comme des mouches qui volent et se cognent aux vitres dans une pièce fermée. Sortir de la pièce, c'est ça, écrire. Christine Angot et Bulle Ogier sont nos invités ce soir à propos de l'adaptation au théâtre d'Un amour impossible. Et comme chaque soir, et même le lundi soir, nous allons commencer en musique. Et pour vous, mesdames, nous avons choisi une très belle chanson de Jane Birkin, « À la grâce de toi ».
Pourquoi la grâce de toi me frappe en sommeil ce soir? Ton visage avec les yeux clos me rappelle toi dans mes bras. Pourquoi je te vois courir comme en ralenti et les rires ont un écho des plages de l'oubli. Pourquoi mes mains tremblent pour caresser une fois encore et comprendre la beauté de cette complexité du corps. Trop faible pour nager au contre-courant, la vie envoie des vagues imprévu de mélancolie. Bafoué, ballotté, te voilà blotti comme les marins qui repèrent dans une tempête l'abri. Je bénis les dieux en qui je ne croyais plus de m'avoir donné un enfant à garder une nuit. Pourquoi la grâce de toi me frappe en sommeil ce soir? Ton visage avec les yeux clos me rappelle toi dans mes bras. Pourquoi je te vois courir comme on ralentit et les rires ont un écho d'une plage de l'oubli. Pourquoi mes mains tremblent pour caresser une fois encore et comprendre la beauté de cette complexité du corps.
Vous êtes comédienne, comédienne de théâtre et comédienne de cinéma. Je me souviendrai toujours de votre première apparition dans La Salamandre d'Alain Tanner. C'était il y a quelques décennies. Et puis depuis, vous avez continué aussi bien au cinéma. Vous avez travaillé avec les plus grands, Jacques Rivette notamment. On se souvient de Ne touchez pas à la hache, c'était je crois en 2007, Le Pont du Nord. Et puis il y a eu Céline et Julie vont en bateau, et puis il y a eu Raoul Ruiz, il y a tant d'autres films. Il y a toujours eu le théâtre parallèlement, je crois que vous avez découvert le théâtre avec Marc O. Et puis ensuite vous avez continué avec là aussi des metteurs en scène qui s'appellent Claude Régis, Luc Bondy, Patrice Chéreau, pour n'en citer que quelques-uns. Et là, au théâtre Berthier, Odéon, vous interprétez le rôle de la mère du personnage Un amour impossible de Christine Angot. Christine Angot, vous êtes écrivain, vous avez publié de nombreux livres, le premier, là aussi je m'en souviens très bien, c'était Vue du ciel, il y en a eu beaucoup d'autres, j'en citerai que quelques-uns, Léonore toujours, Sujet Angot, L'inceste, Quitter la ville, Plus proche de nous, Une semaine de vacances, La petite foule, Un amour impossible, et là, Célipote a travaillé avec vous sur une adaptation de ce texte que vous aviez publié, donc... en roman, il y a maintenant à peu près un an et demi. Ma première question s'adresse à vous, Christine Angot. Christine Angot, est-ce votre nom, votre unique nom ?
C'est même pas mon nom, d'ailleurs. Mon nom, c'est Christine. Angot, c'est un nom comme ça parce qu'il faut bien avoir un nom.
Parce que vous en avez deux dans Un amour impossible.
C'est mon nom civil. Voilà. On a tous un état civil. Maintenant, est-ce qu'on le ressent comme son... Non, vraiment, je ne sais pas. Celui que je ressens comme mon nom, c'est Christine. Et Angot, c'est le nom des papiers.
Mais Christine, c'est un prénom.
Oui, mais bon, tout le monde n'a pas... Il y a des gens qui n'ont pas de nom. Il y en a pas mal.
Mais on vit dans une société où, hélas, on doit avoir une carte d'identité avec un nom.
Surtout parmi les femmes. Pour beaucoup de femmes, la question du nom, ça dépend du père qu'elles ont eu, leur attachement à leur nom et la façon dont elles l'incarnent et dont elles le ressentent, probablement.
Eh bien, justement, dans Un amour impossible, le personnage de la jeune femme, en tout cas quand elle était petite, jusqu'à la fin de l'adolescence, elle a porté le nom de sa mère. Et puis ensuite, à cause d'une décision de sa mère et pas à cause d'une décision d'elle-même, elle a changé de nom.
Oui. Mais c'est vrai que...
Elle porte donc le nom du père.
Voilà. Mais c'est vrai que le... Disons que il me manque ce nom de Schwartz. Bien sûr qu'il me manque. Et que... oui. Il y a plein d'occasions où j'y pense. Mais je peux plus dire je m'appelle comme ça. Puisque je ne m'appelle plus comme ça.
Mais justement, un de vos livres s'appelait Sujet Angot.
Oui. Parce que... En revanche, c'est devenu mon nom d'écrivain. Et ça, c'est bien. Et ce qui compte dans Sujet Angot, c'est surtout sujet. C'est-à-dire, un sujet, c'est quelqu'un qui peut essayer de dire je, qui peut essayer d'être libre, qui peut essayer d'être une personne.
Dans Un amour impossible, que Bull interprète magnifiquement dans le rôle de la mère, on voit que Christine donc, dès qu'elle est petite, elle travaille bien à l'école, elle aime bien les mots, elle aime bien les dictées, elle aime bien apprendre la langue française, y compris les auteurs les plus difficiles. Est-ce que le fait d'avoir changé de nom à une période assez compliquée, puisque c'est l'adolescence, un peu tourmentée pour tout le monde, est-ce que ça a été un des moteurs justement de l'écriture, ce déplacement de nom, Christine ?
Je peux pas le dire exactement, il y a tellement de choses qui viennent rencontrer à un moment donné, qui viennent aboutir à l'écriture, qui aboutissent à l'écriture, il y en a tellement. Mais disons que certainement ce moment-là, c'est quand même l'intervention de la justice, disons.
Et il a fallu passer devant un tribunal et apporter des preuves de la reconnaissance. Enfin,
moi, j'y suis pas allée. Mais en tout cas, c'est la justice qui a son mot à dire, qui dit des choses, et vous êtes là, et Voilà. Mais ça, c'est les procédures, la question des procédures. Mais ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher le changement d'état civil. Hein. Les procédures, on ne vit que ça aujourd'hui. C'est-à-dire des moments où la parole de la personne n'existe plus. Mais ça, ça va de... Vous avez un problème avec votre téléphone, vous appelez Orange. Et c'est une série de procédures où on vous pose des questions. Tant que vous n'avez pas répondu à la question précise, on ne vous pose pas la question suivante. Ensuite, c'est tout un truc. Et de la même façon, quand vous prenez l'avion et que vous passez dans le sas de sécurité à l'aéroport, si vous sonnez, moi j'ai un bracelet qui sonne tout le temps. Bon, parce que je ne peux pas l'enlever, d'accord ? Donc ça sonne. Donc on me dit à tous, est-ce que vous acceptez, je vais vous fouiller, est-ce que vous acceptez ?
Ils sont obligés de le demander.
Oui, mais d'accord, mais vous êtes obligés de dire oui. Vous êtes obligés de dire oui. Et tant que vous n'avez pas dit oui, elle ne vous fouille pas. Et moi, je supporte pas de dire oui à ça, parce que c'est la question, c'est pas une vraie phrase. C'est une phrase qu'on m'a écrite pour que je la dise. Donc, en général, je dis rien, ou alors je dis faites comme vous voulez, ou je dis je n'ai pas le choix. Eh bien, ils vous harcèlent jusqu'à ce que vous disiez oui. Donc ça, voilà, ça c'est des moments de procédure quand vous allez à la police ou quand vous allez au tribunal parce que parce qu'on vous reproche quelque chose. C'est pareil, on vous dit vous pouvez faire une déclaration, mais en fait vous pouvez rien dire, vous n'y arrivez pas. Vous avez des choses à dire, mais vous ne dites que ce qu'il est prévu que vous disiez.
On est peut-être au cœur de la problématique de votre travail d'écriture depuis très longtemps, par l'intermédiaire de ces procédures de nomination et d'assignation d'identité.
Mmh. Oui. Oui, je pense. Je pense que c'est pourquoi il est difficile de d'écrire. Et sûrement que jouer, ça, il y a sûrement aussi des procédures pour jouer, hein, pour avoir l'air de dire. Mais la question, ça serait pas de casser la figure à la fille qui vous dit « Est-ce que je peux vous fouiller ?» Naturellement, de la même façon que écrire, la question n'est pas de pousser des hurlements sur la page. C'est pas ça. C'est trouver un moyen. Mais ce moyen, voilà, c'est.
Les mots ne sont pas neutres. Et d'ailleurs, en tout début d'émission, j'ai lu un court texte de vous qui est issu de la conférence à New York que vous aviez présentée à New York il y a quelque temps et que vous avez lu au théâtre. Et ce texte figure d'ailleurs dans l'édition de poche d'Un amour impossible. Et les mots, c'est toujours sérieux. Mais c'est pas simplement les mots. C'est le rythme, la ponctuation. Essayer de capturer ce qui se passe.
Oui, ce qui se passe, oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on y pense... quand les gens qui se mettent en tête d'écrire ne pensent pas peut-être suffisamment souvent que la question, c'est qu'il y ait de la vie, que le mot soit... C'est quelque chose qui vit. Hein. D'ailleurs, ça m'a beaucoup intéressée, ce qui me plaît beaucoup... Travailler avec des actrices, c'est que il n'y a pas de doute que c'est une matière vivante, le texte écrit. Et là, en plus, on est ensemble, enfin. Alors, on peut.
Christine parle à bulle.
Oui,
j'explique aux auditeurs. Oui,
on peut se parler de des phrases, etc. On peut les toucher, les.
Alors, bulle. Retoucher. Première question, bulle. Est-ce que vous avez changé de nom comme Christine ?
Oui. Moi, j'ai changé de nom, mais j'ai fait le contraire. J'ai pris celui de ma mère. C'est-à-dire, j'étais obligée de prendre celui de ma mère.
Pourquoi ?
On est dans l'identité totale. Parce que mon père, Thielan, supposé Thielan, quand j'étais actrice, ma première affiche, c'était sous le nom de Thielan. Et là, on voyait une lettre en demandant que je ne porte pas son nom en tant qu'actrice, en tant que comédienne, parce que je faisais pas un théâtre respectable, j'étais pas à la Comédie Française, j'étais pas au conservatoire, j'étais avec Marco, j'étais au Centre Américain, on était tous des gens assez enfin on était dans la marge, si vous voulez. Donc c'est comme ça que j'ai pris le nom de ma mère.
Elle a accepté.
Ma mère? Ah bah bien sûr, j'étais très contente même. Et puis ça allait bien avec Bulle, beaucoup mieux que Bulle Thielen, ça va pas du tout. Et mon nom de baptême, puisque j'ai été baptisée, c'est Marie France. Bon, moi, quand je commençais à faire du théâtre, on était en pleine guerre d'Algérie. J'avais pas du tout envie de m'appeler France. Pas du tout. Et les gens qui étaient avec moi, autour de moi, non plus. Et Marie, j'aime beaucoup d'ailleurs, mais bon, je pouvais pas m'appeler Marie Bulle.
Quoique! Donc,
j'ai gardé le nom que ma mère me donnait quand j'étais même pas née, quand j'étais dans son ventre, parce que son frère, qui est mon parrain, disait comment va ta Bulle. Voilà. Donc, c'est devenu un nom, mais ailleurs, je m'appelle autrement. Par exemple, aux États-Unis, je m'appelle pas Bulle, parce qu'ils peuvent pas dire un U.
Oui.
Ils disent Boule. Donc, j'ai décidé de m'appeler Marie. Et puis, je m'appelle Marie Schroeder. Donc, j'ai beaucoup de noms. Je pourrais être espionne, j'ai 3 ou 4 noms.
Et le nom de Schwartz que vous portez dans la mise en scène de Célipote et dans le texte et l'adaptation qu'en a faite Christine. Donc, ce nom-là, il vous évoque quoi?
Mais il m'évoque un amour impossible. Il m'évoque tout ce que je dis, tout ce que... il m'évoque Rachel.
Oui, c'est ça, parce que souvent, Bulle, elle dit...
Rachel, c'est le prénom.
Elle dit souvent ma Rachel.
Oui, Rachel, c'est le prénom de la maman de Christine. Donc, je joue la maman de Christine, qui est Rachel Schwartz. Et qu'est-ce qui m'évoque, ce nom? Écoutez, c'est dit dans le livre. C'est un nom juif. Voilà, c'est tout.
Elle le porte pas, d'ailleurs, comme un nom juif, la mère.
Absolument. Non, c'est son nom. Elle le porte pas comme une identité, justement.
Non.
Non. Elle le porte comme son nom, mais pas comme une identité. Tout à fait.
Si vous me demandez, c'est pour ça que vous me demandez, j'y pense pas tellement à ça, vous voyez.
Au nom.
Non, ben non, on parle que de ça là pour l'instant.
Ben c'est beaucoup un des thèmes.
Oui, bien sûr.
Sous-jacent, peut-être pas.
Bien sûr, bien sûr.
Finalement bien sûr, le plus visible, mais tout est travaillé par cette histoire des mots, des noms, de la précision des phrases qui vont être prononcées et du changement d'identité de Christine.
Voulu par Madame
la mère.
Schwartz. Voulu envers et contre tout par Madame Schwartz.
Comme un indice de respectabilité. Voilà. La question du respect, la question de l'honneur. Parce qu'on peut parler des noms, en effet.
Il faut parler de classe sociale.
On peut parler de classe sociale et on peut aussi parler de cette question dont on a parlé assez récemment, d'ailleurs, entre nous, de l'honneur. C'est quand même aussi l'histoire d'une jeune fille à qui on enlève son honneur. C'est aussi ça.
Parce que elle n'a pas pu épouser son amoureux et donc l'enfant qu'elle attend de son amoureux, en l'occurrence la fille, ne pourra pas porter le nom du père.
Non, c'est pas la mère à qui on enlève son honneur. La mère, elle est rejetée. Bon, elle est rejetée, elle n'est pas admise par un homme d'une classe sociale qui s'estime supérieure à elle. Ça oui, c'est vrai, elle est rejetée. En revanche, la fille, elle, perd son honneur. C'est pas la même chose d'être rejetée et d'être déshonorée quand même, tout à fait. Oui, être rejetée, je dirais que tout le monde connaît ça et ça arrive à un moment ou à un autre à beaucoup de gens. être déshonoré, ça peut ne pas vous arriver. Ça n'arrive pas dans toutes les vies.
Heureusement. Mm-hmm. Heureusement. Alors ça, c'est le cœur incandescent à la fois du texte, du livre que vous aviez publié et aussi de l'adaptation que vous avez écrite et qui donne cette pièce de théâtre que vous interprétez, vous, Bulle, avec Maria de Medeiros dans la mise en scène de Célipote. Et effectivement, au cœur de ce texte, au cœur de cette pièce aussi, il y a effectivement le fait que, un soir, la fille, je peux l'appeler Christine ?
Oui, c'est son nom.
Christine rentre d'une visite de chez son père, et ce soir-là, elle dit que ça s'est mal passé. Je crois que c'est les mots même hein, qu'elle emploie. Ça s'est mal passé.
Ça s'est pas bien passé, maman.
Et elle le répète. Et la mère, qu'est-ce qu'elle dit, Bulle ?
Mais qu'est-ce qu'il y a eu ? Il s'est passé quelque chose de spécial.
En fait, elle ne dit pas que ça ne s'est pas bien passé, elle dit moyen. Parce que.
Comment ? Oui.
Voilà, Bulle demande si ça s'est bien passé.
Alors, ça s'est bien passé, moyen. Pourquoi ? Pourquoi moyen ? Qu'est-ce qu'elle répond ? Je ne sais plus.
Ça ne s'est pas bien passé, maman.
Parce qu'il est difficile.
Mm-hmm. Ah. C'était difficile, oui.
Oui, il est...
Et la mère abonde en disant, oui, c'est
mais
vrai,
pourquoi,
il est difficile.
Quoi en particulier, chez lui, sous-entendu, son caractère. Et elle dit, je sais. Et après, il y a toute la...
Et elle sait quoi, la mère, selon vous, Bulogier ?
Qu'il a un caractère difficile.
Et puis c'est tout.
Oui. Ça, elle le sait. Elle le sait.
Mais elle ne peut pas imaginer qu'il se soit passé autre chose.
Non,
c'est pas
sûr.
Qu'elle ne peut pas.
Christine Angot.
C'est pas qu'elle ne peut pas, c'est qu'elle, ça ne lui vient pas à l'idée de chercher s'il y a peut-être autre chose.
Et de ce silence par les mots, la fille lui en voudra de pas avoir cherché la vérité de sa fille, Christine Angot.
Vous savez, dans toutes les situations où vous aimeriez dire quelque chose et où vous sentez, où vous avez l'impression que qu'il n'y a pas de récepteur ou de récepteur suffisamment, je ne sais pas moi, qu'il n'y a pas de... Oui.
De personnes qui puissent écouter.
Il n'y a qu'une procédure de parole, j'y reviens, hein, pour vous écouter ou pour entendre. Il ne s'agit pas tellement d'écouter, à vrai dire. Il s'agit d'entendre. Ce que les gens écoutent, hein. Les gens écoutent, souvent ils n'entendent pas.
Est-ce que c'était possible à entendre ? Et est-ce que la jeune fille pouvait l'articuler par les mots ?
Ah ben non, non, bien sûr que non. Non, non, bien sûr que non. Non, non, c'est... Non, non, bien sûr que non. Non, non, il y a des choses qui... Si vous voulez, prenons les choses différemment. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour être dites. Bon, pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas faites pour être vécues. Aussi. Hein, les choses qui ne sont pas faites pour être vécues, il faut s'attendre à ce qu'elles ne puissent pas être dites. Ça n'a rien de bizarre.
Est-ce que vous la sentez innocente, Bulogier, cette mère ? Est-ce que vous la sentez, si j'ose dire, hors d'atteinte de la possibilité du mal absolu qui est l'inceste ?
Moi, je pense que oui, je pense que cette femme, elle ne pouvait pas imaginer que ça aille jusque-là. Ce n'est pas exactement ce que dit Christine Angot, mais dans cette pièce, en tout cas dans l'adaptation et puis dans le livre, puisqu'elle dit peut-être... qu'est-ce que c'est la phrase ?
Mais tu sais, il y a cette question de... J'avais perdu confiance en moi. C'est ça. Elle ne pouvait pas imaginer aussi parce que elle était freinée par le manque de confiance en elle. Et son souci, son problème, sa question à elle, c'était je n'ai pas confiance en moi et voilà. Ça l'empêchait de voir tout autre chose.
Vous pensez, Christine Angot, que l'absence de confiance en soi peut empêcher de penser l'inimaginable et l'impensable?
Ah oui,
moi je pense que qu'une mère ne pense pas à, même dans des choses beaucoup moins fortes et beaucoup moins violentes. Les parents, c'est très difficile d'être enfant, c'est très difficile d'être parent, et je pense que les parents parfois se cachent vraiment les choses inconsciemment et involontairement d'ailleurs. Que ce soit au niveau de ce qui s'est passé là avec dans un amour impossible, mais même au niveau de la drogue, au niveau de différentes choses beaucoup plus mineures et ordinaires, les parents préfèrent ne pas, enfin c'est instinctif quoi.
Oui, c'est aussi une manière c'est peut-être aussi une manière de ne pas être intrusif, enfin c'est il y a beaucoup de choses hein aussi qui peuvent se jouer,
de pas être indiscret aussi, il y a une discrétion vis-à-vis de ses enfants en principe, pas toujours mais souvent.
Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez France Inter, vous écoutez France Inter L'Heure Bleue avec Bulogier et Christine Angot, vous écoutez le choix musical de Christine Angot, Depardieu chante Barbara la solitude.
Je l'ai trouvée devant ma porte, un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse des amours mortes, elle m'a suivi pas à pas. La garce que le diable l'emporte, elle est revenue, elle est là. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés, elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées. La garce, elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans sa triste robe de moire avec des cheveux mal peignés, t'as la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder. Allez, va-t'en porter ailleurs ta triste gueule de l'ennui. Je n'ai pas le goût du malheur, va-t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler les hanches, je veux me saouler de printemps, je veux m'en payer des nuits blanches, à cœur qui bat, à cœur battant, avant que sonne l'heure blême, et jusqu'à mon souffle dernier, je veux encore dire je t'aime, et vouloir mourir d'aimer. Elle a dit, ouvre-moi ta porte, je t'avais suivi pas à pas, je sais que tes amours sont mortes, je suis revenu, me voilà. Ils t'ont récité leurs poèmes, tes beaux messieurs, tes beaux enfants, tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine. Eh bien, c'est fini maintenant. Depuis, elle me fait des nuits blanches, elle s'est pendue à mon cou. Elle s'est enroulée à mes hanches, elle se couche à mes genoux. Partout, elle me fait escorte, elle me suit pas à pas. Elle m'attend devant ma porte. Elle est revenue, elle est là, la solitude, la solitude.
Pour celles et ceux qui n'auraient pas eu la possibilité, je sais qu'ils sont nombreux, les auditeurs de France Inter, de ne pas avoir eu de place au Théâtre des Bouffes du Nord pour écouter Depardieu chanter Barbara, ben manifestement, il va recommencer. Alors, d'un amour impossible, nous parlons depuis le début de cette émission, à propos de l'adaptation que vous avez écrite, Christine Angot, à partir de ce texte qui porte le même nom. Il y a donc cette jeune fille qu'on voit grandir, qui est une petite fille interprétée par Maria de Medeiros au début de la pièce et puis qui petit à petit va vivre l'éclosion de sa personnalité. Et puis à vous, Bulogier, vous êtes la mère, Vous êtes une mère que la fille adore, idolâtre. C'est pas Barbara qu'elles écoutent, hein, c'est Dalida. Et la fille est presque amoureuse de sa mère dans la mise en scène de Célipote. Elle aime la toucher, elle aime l'habiller, elle aime danser avec elle, elle aime jouer avec elle. Et puis petit à petit, cet espace de liberté qu'elles ont trouvé entre elles, à la fois par des mots, par des écolalies, par des danses, etc., va petit à petit se rétrécir. Est-ce que vous le ressentez comme ça?
Mais c'est la pièce, oui, bien sûr. Oui.
Qu'est-ce qui va se passer dans la tête de cette mère? Tout à l'heure, Christine Angot disait que elle trouvait pas sa place socialement, mais est-ce qu'elle trouve sa place de mère?
Je ne sais pas. Elle est la mère de Christine, bien sûr. Et elle reste la mère de Christine pour moi jusqu'à la fin. De même qu'elle reste certainement, qu'elle a été une grande amoureuse. C'est pour cette raison, c'est comme ça que je le sens. Donc elle a eu des œillères, elle a pas vu tout ce qui se passait parce que elle a été une grande amoureuse, cette femme. Je crois. Enfin, c'est comme ça que je le pense, parce que sinon. Il faut que je l'aime, moi, cette Rachel, pour la jouer.
Ben, vous l'aimez, manifestement.
Oui, beaucoup. Et d'ailleurs, je crois que Christine lui a donné un très beau rôle à jouer, en tout cas, et aussi dans son livre.
Comment s'est passée, Christine Angot, l'adaptation du texte par rapport à la mise en espace? On sait peut-être un peu moins d'ailleurs pour vous que vous avez écrit pas mal de pièces et qu'on les connaît pas toutes d'ailleurs, certaines sont éditées, d'autres pas, vous ne les avez pas beaucoup mises en scène, en tout cas pas acceptées. Je crois que c'est en train de venir, c'est un nouveau cycle de votre vie artistique, Christine Angot. Mais comment s'est passé le travail de réflexion sur des mots que vous écrivez sur une page ou sur un ordinateur, à tout d'un coup l'idée qu'il va y avoir un espace avec des corps qui vont s'échanger, des paroles, du silence, des non-dits?
D'abord, il y a une donnée qui était de la scène, à savoir deux personnages. La mère, la fille. Alors que dans le roman, voilà, pouvait y avoir le père, pouvait y avoir une amie de la mère, pouvait y avoir une grand-mère, pouvait y avoir un passant dans la rue, pouvait y avoir voilà. Bon, donc ça déjà, ça c'est très important. Donc que des choses qui passent par ces deux personnages-là. Donc ça déjà c'était, et comment le livre peut transiter et passer et être dit par ce rapport. Donc ça c'était déjà la base. Ensuite, le premier désir de Célipote c'était de monter uniquement la fin, c'est-à-dire quand la fille est adulte et que la mère est âgée. Donc ça. Moi, j'ai essayé de la convaincre d'essayer de jouer, de faire aussi quand la fille est petite et la mère jeune. Bon, et je pensais que ça pouvait être. Je voyais pas du tout comment au théâtre ça pouvait être possible. Mais je lui disais, mais est-ce que c'est possible? Ça serait vraiment bien. J'aimerais bien. Bon. Et je trouve que ce que fait Marianne Medeiros, c'est quand même. Enfin, moi, la première fois que je l'ai vue, et même tous les jours, quand je le vois.
C'est éblouissant.
Elle fait la petite fille.
Elle fait la petite fille de 8 ans. Mais... Et c'est ça, c'est le pari théâtral, d'ailleurs. C'est d'arriver à traverser toutes ces décennies sans changer de vêtements, sans changer de maquillage, sans changer de cheveux, sans changer de rien, d'être de la première minute à la dernière minute pareil. Avec Maria qui, d'un seul coup, on y croit complètement que c'est une petite fille.
Ah oui, ah bah c'est une petite fille, c'est une adolescente. Enfin bon, et mais Bulle aussi change d'âge aussi. De enfin voilà, je sais pas comment elle fait, mais en tout cas voilà, ça se voit quoi. C'est...
Alors il y a une autre femme à laquelle on pense quand on voit ce spectacle. Impossible de ne pas y penser, d'ailleurs. Elle aussi, elle aimait sa mère. Elle aussi, elle avait des rapports complexes avec sa mère. Je vous propose de l'écouter. Elle va parler de sa manière de diriger les acteurs. Elle était à la fois écrivain, cinéaste et metteuse en scène de théâtre. Bulle, vous avez eu la chance de travailler avec elle. Nous allons d'abord l'écouter. Parler de son travail de directrice d'acteur. Et puis ensuite, nous écouterons un document assez exceptionnel, un documentaire qui s'intitule « Savannah B, c'est toi » avec vous, Bulle Ogier et Madeleine Renaud. On écoute la voix de Marguerite Duras. C'était au micro de Jacques Chancel.
Il y a un mauvais usage du comédien. Le comédien, dans le cinéma français, dérange le film. Il ne le fait pas, si tu veux. C'est très curieux, ce sentiment. Quand Fonda pénètre un espace, ou une rue vide, ou une place, ou un bar, enfin, il est à sa place, il est juste, il est discret. Simplement, c'est l'emplacement de son corps qui est complètement sacralisé. Bon, dans le cinéma français, ça dérange. Les acteurs français font beaucoup trop de gestes. Ils sont beaucoup trop intimidés. On sent que ce sont des gens qui ont peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas faire carrière, talonnés par l'idée de carrière. C'est lamentable. C'est peut-être parce que je ne le vois jamais. Je ne le vois qu'ici, ici je veux dire à la télévision. Je ne le vois jamais en première vision le cinéma français, je n'y vais pas. Mais je suis chaque fois, même en seconde vision, ou en 4 ans après, je suis chaque fois frappée par ça. Par la mauvaise utilisation des acteurs par les metteurs en scène. Un petit peu comme s'ils n'étaient pas assez intelligents pour diriger les comédiens. Ils font de la belle image. Ils savent très bien filmer. Mais on a le sentiment que c'est aussi nécessaire pour eux de bien filmer ce bureau que le visage de ce jeune homme.
Je veux qu'on me laisse. Je voudrais qu'on me laisse seule.
C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je...
Attends, pardon. Alors c'est toi qui chantes d'abord avant que je dise ça? Je voudrais être seule?
Oui.
C'est toi qui chantes avant?
On fait toute la leçon.
Bon, je vous laisse. Vas-y.
C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois. Des fois, je voudrais crier...
C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer. Des fois, je voudrais crier.
Oui, car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer.
Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer.
C'est ça. Si jamais tu partais et me quittais, je crois que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour.
Non.
Si jamais tu partais me quitter.
Si jamais tu partais me quitter.
Oui. Je crois que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour.
C'était en 1983 au théâtre du Rond-Point, Bulle Ogier, avec Madeleine Renaud, Savannah B.
Oui.
Est-ce que vous avez ressenti un lien de parenté entre Rachel Schwartz et la mère de Marguerite Duras?
Je pense que Marguerite a énormément parlé de sa mère. Et que Christine parle énormément de sa mère dans ce livre, pour la première fois d'ailleurs, je crois. Non ?
Clairement comme ça, oui.
Oui. Donc, il y a un lien, bien sûr. Et dans les reproches que Marguerite faisait à sa mère, et dans l'amour qu'elle lui portait, et de même, Christine, dans l'amour qu'elle a porté qu'elle porte à sa mère, et aussi dans les reproches qui sont dits dans cette pièce. Et donc, il y a un lien, effectivement. Moi, j'y pense. J'y pense beaucoup. Et d'ailleurs, je crois aussi que Christine cite quelquefois Marguerite.
En tout cas, dans votre conférence de New York.
Pas dans la pièce, hein.
Non,
excusez-moi.
Pas dans la pièce.
Pas dans la pièce, mais.
Non, mais dans la conférence de New York, vous écrivez ceci, Christine Angot, vous dites, le personnage de Marguerite Duras dans La pluie d'été, qui va à l'école et quand il revient de l'école dit à ses parents, je ne veux pas y retourner parce qu'on m'apprend des choses que je ne sais pas. Il a raison, ajoutez-vous, ce qu'on veut savoir, c'est les choses qu'on sait au fond. J'aimais beaucoup ma mère quand j'étais petite. Et ensuite, vous ajoutez, puisque c'est un texte qui est une sorte de mise en chantier de l'écriture d'un amour impossible, et vous ajoutez, je ne sais rien dire, à part ça, je ne sais même pas ce que c'est devenu, j'ai des traces d'elle plus ou moins sociologiques, elle travaillait à la sécurité sociale, elle a aimé passionnément mon père, fils de bourgeois parisien, elle était mère célibataire dans les années 60 dans une petite ville de la province française, etc., etc. Tout ça ne me donne pas sa matière humaine, mortelle, vivante. Et donc, comment c'est venu de lui donner cette matière humaine, mortelle, vivante?
J'aurais du mal à... Enfin, justement, dans Conférence à New York, j'essaye de montrer comment c'est pas venu, parce qu'à partir du moment où ça vient, on est juste occupé à suivre le fait que ça vienne et de continuer à le laisser venir et à le faire venir et à le poser et à suivre le rythme, etc. Donc à ce moment-là, je perds l'attention à la façon dont ça vient. La façon dont ça vient pas, oui, j'ai pu en parler, j'ai pu l'écrire, j'ai pu m'en souvenir. La façon dont ça vient, je suis trop occupée à le tenir, à le garder, pas tellement à le tenir d'ailleurs, plutôt à le guider, à voir comment, voilà, à le, je sais pas comment dire, je pourrais pas dire exactement, mais en tout cas c'est beaucoup plus, c'est de la vie quoi hein, quand ça vient, ouais, vraiment.
Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez France Inter avec Christine Angot et Bulogier, vous écoutez le choix musical de Bulogier, Billie Holiday.
Billie sings the blues, she's got them bad, she feels so sad, wants world to know just what her blues is all about. Lady sings the blues, she tells her side nothing to hide. Now the world will know just what her blues is all about. The blues ain't nothing but a pain in your heart when you get a bad start. You and your man have to part. I ain't gonna just sit around and cry, and I know I won't die because I love him. Lady she's got a man. She feels so sad. But now the world will know she's never gonna sing 'em no more. No.
Un amour impossible dans une mise en scène de Célie Pote, interprétée par Maria de Medeiros et Bulloger, texte et adaptation de Christine Angot. C'est en ce moment même à Paris, puis ensuite en tournée dans toute la France. Ça avait d'ailleurs commencé à Besançon, je crois, il y a quelques mois. Et petit à petit, ça s'appelle donc Un amour impossible, petit à petit, avec des allers-retours, parce que c'est pas forcément une progression, cet amour entre la mère et la fille. Ça peut aller mieux, et puis tout d'un coup, ça peut revenir en arrière. La fille a des accès. Tout d'un coup, elle ne supporte plus la présence de sa mère, le corps de sa mère, la voix de sa mère, quand elle invite pourtant sa mère à dîner. Et puis petit à petit, quand même, quelque chose se densifie. Une confiance s'instaure entre la mère et la fille. Peut-être pas la confiance de l'innocence quand elle était petite fille et qu'elle idolâtrait sa mère comme une espèce de déesse faite femme. Mais en tout cas, quelque chose se passe de l'ordre peut-être de la reconstruction d'une confiance. Et c'est là que la mère, quand peut-être ce pacte de loyauté s'instaure entre la fille et la mère, c'est là que la mère dit, à la fin de la pièce, « Tu sais, Christine, j'ai honte. » C'est quoi ce mot de honte ? Pour vous deux, Bulloger.
Dans la pièce, vous voulez dire ? Mais elle l'explique, à la fin de la pièce, elle explique qu'elle avait honte, surtout honte d'être pauvre, honte d'être très mal habillée, honte de vis-à-vis de ses camarades, les petits enfants autour d'elle quand elle était petite, que le Père Noël pouvait pas lui apporter de jouets, etc. Et puis à la fin, elle dit pas qu'elle a honte. À la fin de la pièce, je ne me souviens pas de ça.
Non, c'est vrai. Elle dit au contraire. Il y a juste une émotion à propos de la honte qu'elle explique, comme tu viens de le dire.
Oui, elle dit tout ce qui a fait qu'elle avait honte. C'est-à-dire, en somme, qu'elle était extrêmement pauvre et qu'elle était plus ou moins rejetée par son environnement. Alors, peut-être là, vous lisez le livre.
Alors, elle parle de la honte qu'elle avoue à sa fille, une honte plutôt sociale. Oui. Et puis, vers la fin de la pièce, quelque chose se dénoue en elle, chez la mère, qui va trouver des mots pour le dire. Et ça aussi, c'est une question que je voudrais vous adresser à vous deux. Voici ce que dit la mère vers la fin de la pièce. « Je ne guérirai jamais, jusqu'à ma mort, de ne rien avoir dit, de ne rien avoir fait. » De ne rien avoir vu. Quel aveuglement, mon Dieu, quel aveuglement.
Ah oui.
Alors, c'est l'aveuglement. Alors, est-ce qu'il y a une honte de l'aveuglement ? Je ne sais pas. Mais c'est l'aveuglement.
En tout cas, la pièce, à la fin, prend une tonalité d'imprécation. Pas d'accusation, mais d'imprécation. Est-ce que vous, Christine Angot, vous espérez aussi que les spectateurs, les spectatrices qui sont assis pendant une heure et demie pour entendre cette mère et cette fille parler, est-ce que vous espérez que quelque chose de l'ordre du silence, qui a toujours lieu d'ailleurs sur l'inceste, va pouvoir, modestement, mais comme il est énoncé, va pouvoir un peu se dénouer ?
Non, j'espère pas ça, non. Moi, je suis pour le silence.
Pourquoi ?
Parce que la parole, ça sert absolument à rien. À rien. La parole chez les juges, la parole à la police, la parole dans la famille, etc. Ça sert à rien. C'est juste, C'est la parole que vous adressez à quelqu'un, c'est vous lui donner le pouvoir de vous entendre, de dire on va faire ceci, on va faire cela. Mais toute cette religion du témoignage, ce n'est pas ma religion du tout. Je pense que le silence, un silence attentif, un silence qui permet la littérature, qui permet d'entendre, qui permet cette attention-là aux nuances. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est la seule chose que je demande. Moi, je ne demande pas à ce qu'il y ait... Vous savez, je viens de lire un tout petit livre de Proust qui s'appelle « Sur la lecture ». Petit livre très court. C'est très, très beau. C'est vraiment très, très beau. Et à un moment, il dit que lire permet d'avoir accès à la vérité. Mais il précise que ce n'est pas le livre qui dit la vérité. Le livre ne peut pas contenir la vérité. Qu'en revanche, il ouvre une porte et que la personne qui lit le livre peut trouver la vérité grâce à cette porte. Mais la vérité n'est pas écrite dans le livre, c'est juste comme une clé. Voilà. Juste ça. Je crois que c'est déjà... c'est suffisant et je crois qu'il faut modestement se contenter de ça.
En tout cas, c'est la mère qui aura, si j'ose dire, le dernier mot. Et voici ce qu'elle dit. « Je pense bien à toi, ces jours-ci, je revoyais la rue de l'Indre et surtout le chemin, le jardin, le gros marronnier. Je revoyais quand je cueillais des cerises, que je ramenais des brassées de lilas. Il y avait une forme de liberté dont je ne me rendais pas compte. Mais trêve de nostalgie, c'est aujourd'hui. » Et maintenant, merci infiniment Christine Angot-Bulogier. Je rappelle que Un amour impossible, c'est au théâtre de l'Odéon à Paris, théâtre Odéon Berthier. C'est jusqu'au 26 mars avant de continuer cette tournée. Et puis Bulle, je sais que vous pourrez pas venir demain soir, je voulais vous inviter. Je fais une soirée avec un écrivain qui est aussi un musicien et un chanteur, qui va chanter pour nous demain soir à l'heure bleue en direct au Studio 105. C'est Gaëlle Faye. Vous êtes peut-être libre, Christine ?
Moi, je me couche très tôt.
Ah, bah vous écouterez à la radio. En tout cas, merci à toutes les deux et merci à toute l'équipe de l'heure bleue. Merci. Merci à Véronique Barnet qui a réalisé cette émission. Merci à Anne-Sophie Dazard, à Élodie Royer, Arthur Daniel qui l'a préparée. Merci aussi à la technique.